On va tourner sans plus tarder ensemble, si vous le voulez bien, dans le premier épître de Jean. Donc vous savez, Jean a écrit l'évangile de Jean, il a écrit l'Apocalypse, il a écrit trois lettres, 1, 2, 3 Jean. Et j'aimerais un petit peu vous mettre dans le contexte ce soir, le titre de mon message est celui-ci, ça ne peut pas être plus simple, « Aimons-nous les uns les autres ». Amen. J'espère que si vous n'êtes pas d'accord, on a un gros problème. Vous pouvez même vous tourner à la personne à côté de vous et lui dire « Amen, je veux t'aimer mon frère, ma soeur, avec la grâce de Dieu. » Et vous pouvez même vous tourner vers l'autre personne et vous dire « T'as pas le choix, t'es obligé de m'aimer. » C'est un commandement de Dieu. Amen. On va tenter, si vous le voulez bien, de survoler cet épître. On ne peut pas tout voir parce qu'il est tellement riche. Et en l'étudiant, on peut vraiment se laisser tenter d'aller vers de longues parenthèses. Mais j'aimerais garder ce fil conducteur, aimons-nous les uns les autres. C'est un homme très âgé qui écrit ici. On sait que Jean, on a quelques écrits. Hein. Vous savez, le seul historien officiel qui nous donne de l'information sur les trois premiers siècles après Jésus-Christ, c'est Eusèbe de Césarée, qui était près de l'empereur Constantin à Rome et qui a écrit des écrits officiels. Donc, c'est le seul historien officiel. Mais maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les pères de l'Église. Hein. C'était la génération des pasteurs ou des responsables d'Église juste après les apôtres. Et il y a un homme qui s'appelle Irénée, qui était responsable d'Église, aussi un autre, Clément, qui ont écrit sur Jean, qui ont côtoyé l'apôtre Jean. Et on sait forcément à travers leurs écrits, à travers quelques données historiques, et maintenant, comprenez quelque chose, quand on étudie l'histoire, un historien va toujours bien vous expliquer qu'il y a toujours une marge d'erreur. Hein. Donc, je ne peux pas affirmer que c'est extrêmement vrai ce que je dis, mais beaucoup d'éléments historiques nous font croire que cette lettre, le premier épître de Jean, aurait été écrit après l'Apocalypse. Beaucoup, beaucoup d'éléments, parce que l'empereur romain est décédé, et puis lorsqu'il est décédé, Jean a été relâché de l'île Patmos, donc on sait qu'il a eu la vision de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, et il va aller à Éphèse, il va se poser à l'église d'Éphèse, et on sait par des écrits historiques qu'il est très occupé, il est très âgé, il est vieux, il est fatigué, mais il donne toute son énergie à former des pasteurs, former des responsables d'église, visiter des petites églises un peu autour d'Éphèse, tout ça, et travailler là-bas pour le Seigneur. Et Jean arrive dans un contexte qu'il connaît déjà, parce qu'avant l'église, avant d'aller sur Patmos, c'était déjà le cas, même en 65 après Jésus-Christ, quand Paul va aller sur Rome. Quand Paul écrit, on l'a vu ensemble il y a un certain temps, quand on a fait une série sur l'Épître aux Romains, si vous étiez des nôtres, quand Paul écrit aux Romains, il n'a pas encore été à Rome, mais il sait qu'il y a déjà des divisions entre les églises à Rome. Il sait qu'il y a des églises de Romains, 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 et des églises de Juifs, et ils ne se mélangent pas, ils ne vont même pas à l'église ensemble. Il y a déjà une sorte de racisme qui s'installe, et c'est impressionnant. Et Paul veut toucher à ces choses-là. Et là, on arrive, Jean est maintenant ici le dernier apôtre vivant. Tous sont partis avec le Seigneur. Il est le dernier des apôtres. Et on sait aussi par certains écrits historiques que déjà il y a des fausses doctrines qui circulent partout. Dès le premier siècle après Jésus-Christ, on a des preuves. Dès le premier siècle après Jésus-Christ, on avait commencé à dire aux chrétiens comment prier. On leur écrivait des prières, on ne voulait pas trop que les chrétiens soient libres dans la prière, on voulait les contenir et on voulait même leur dire comment prier. Et il y a des fausses doctrines qui circulent, il y a toutes sortes de choses qui circulent exactement comme aujourd'hui. Et Jean arrive dans, il écrit cette épître pour déjà tracer une ligne entre le vrai chrétien et le faux chrétien, parce qu'il y a déjà des faux chrétiens à l'époque, et des gens qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas, tout ça. Et on ne va pas trop rentrer là-dedans. Et Jean écrit cette épître pour dire, voilà, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ce n'est pas qu'il ne chute jamais, mais sa vie est différente. Il vit différemment, il cherche la sainteté. Il vit sa vie, sa foi différemment. Et il écrit cette épître de Jean. Et quelque chose qui est très, très interpellant, c'est que le centre de toute la thématique, c'est « revenez à la simplicité de l'Évangile ». Jésus avait dit avant de partir, « Le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Et Jean était là quand Jésus a eu son dernier entretien avec ses disciples, qui leur a parlé de l'amour, qui leur a dit « Demeurez dans mon amour, restez dans mon amour. » Et puis il leur dit « Aimez-vous les uns les autres. » Et Jean va reprendre ces paroles et à plusieurs reprises, à travers sa lettre, il garde le cap, il touche à différents sujets, mais il garde le cap, l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ces choses-là ensemble ce soir. Et ce qui est très, très touchant, c'est que un des pères de l'Église raconte une histoire extraordinaire, qui est une histoire vraie. Elle n'est pas dans la Bible, mais on sait que c'est un récit historique. Qu'à un moment donné, Jean est venu vers un pasteur qui n'était pas pasteur d'Éphèse, mais d'une petite ville à côté d'Éphèse, dont nous n'avons pas le nom, mais qui était juste à côté. Et en face de cette ville, il y avait une montagne. Et souvenez-vous de la montagne, parce qu'elle revient à la fin. Et Jean vient voir ce pasteur et lui dit, il lui présente un jeune homme qu'il a gagné à Christ. Il lui dit, c'est mon fils spirituel. Il dit, moi je vais partir, je dois aller dans d'autres villes, d'autres églises, et je te confie ce jeune homme, prends soin de lui, veille sur lui. Il lui dit ceci, c'est un dépôt que Christ et moi nous te confions. Nous te confions ce dépôt, ce jeune homme, prends soin de ce jeune homme. Et longtemps plus tard, on croit des années, Jean revient, quelques années, parce qu'il va quand même décéder quelques années plus tard, il revient et il est devant toute l'église et il dit au responsable de l'église, il dit, « Où est le dépôt que je t'ai confié? » Et le pasteur ne comprend pas, il dit, « Mais tu ne m'as pas donné d'argent, je n'ai pas de cagnotte. » Et il est mal à l'aise devant toute l'église, il dit, « Je suis un homme intègre. » Non, je te parle de ce jeune homme. Christ et moi, nous t'avons fait un dépôt, un trésor, on t'a confié un trésor. Où est ce jeune homme? Et le pasteur se met à pleurer. Puis il lui dit, « Il s'est éloigné de Dieu. » J'ai cru l'avoir bien accompagné, mais à un moment donné, j'avais du travail, je l'ai un peu lâché, je l'ai un peu mis de côté. Et là, je vous fais... parce que toute l'histoire est écrite hein, dans l'histoire de l'Église, cette histoire, c'est un récit historique. Et c'était elle circulait dans des lettres entre chrétiens pour s'encourager dans la foi, cette histoire extraordinaire. Et le pasteur lui dit, il est parti, il s'est éloigné des choses de Dieu, et de fil en aiguille, il a commencé à faire la fête, à sortir avec des amis, tout ça. Et c'est un jeune homme qui avait du leadership, c'est un jeune homme qui avait de l'influence, et il a formé une bande, un groupe de brigands. Et aujourd'hui, il est le chef de ces brigands, et il tient la montagne juste là en face de l'église. Il est là, sur la montagne de l'autre côté. Et regardez bien ce que l'ancien, parce qu'à l'époque, le mot pasteur n'existait pas en passant, c'est arrivé avec Martin Luther, mais l'ancien de l'Église gémit profondément et pleurant. Il dit, « Il est mort, dit-il. » Comment? De quelle mort? « Mort à Dieu, car il est parti. Il est devenu méchant, perdu. » En un mot, c'est un voleur. Et maintenant, il tient la montagne qui est là en face de l'Église avec une troupe d'hommes armés semblables la nuit. Ça, c'est un récit historique que nous retrouvons dans l'histoire ecclésiastique de Eusèbe de Césarée. L'apôtre déchire son vêtement et avec un long sanglot se frappe la tête. « J'ai laissé, dit-il, un bon gardien de l'âme de mon frère. Mais qu'on m'amène aussitôt un cheval et que quelqu'un me serve de guide pour le chemin. » Et il sortit de l'église comme il était. Imaginez Jean âgé, son vêtement déchiré de honte. Et il part assis sur un cheval avec un jeune homme qui le guide. Arrivé à l'endroit, il fut surpris par l'avant-poste des brigands. Il ne chercha pas à fuir et ne demanda rien, mais il s'écria « C'est pour cela même que je suis venu. Conduisez-moi à votre chef. » Celui-ci, précisément, attendait en armes. Il était armé. Mais dès qu'il reconnut Jean, il rougit et prit la fuite. L'apôtre, oubliant son âge, le poursuivait de toutes ses forces et lui criait, « Pourquoi me fuis-tu, ô mon fils? Moi, ton père, un homme des armées, un vieillard, aie pitié de moi, ô enfant. Ne crains pas. Tu as encore des espérances de vie. Je donnerai pour toi ma parole. Ma parole au Christ. S'il le fallait, je mourrais volontiers pour toi comme le Sauveur l'a fait pour nous. Je donnerai ma vie à la place de la tienne. Arrête-toi, aie confiance, c'est le Christ qui m'envoie. » Le jeune homme obéit et s'arrête. Il baisse la tête, puis jette ses armes. Enfin, se met à trembler. On dit que les brigands parfois avaient deux épées comme ça ici. Il jette ses armes, se met à trembler en versant des larmes abondantes. J'aimerais vous dire, les larmes de Jean ont désarmé ce jeune homme. Il vient autour de Jean, il entoure de ses bras le vieillard qui s'avançait, lui demande pardon comme il peut, par ses gémissements, et il est baptisé une seconde fois dans les larmes. Il prie, il tombe à genoux. Jean le conduit ensuite à l'église, intercède pour lui dans de longues prières, offre avec lui des jeûnes prolongés et enchante son esprit par le charme varié de ses discours. On dit que les gens aimaient beaucoup entendre les enseignements de Jean. Ça devait être extraordinaire d'écouter Jean parler de quand il était avec Jésus-Christ. Et ce jeune homme-là vient, il entend ses discours, offrant un grand exemple de véritable... Et regardez bien ce qu'il dit ici, Eusèbe de Césarée. Il offre ici un grand exemple de véritable repentir et une éclatante preuve de renaissance, un trophée de résurrection visible. L'homme qui a écrit ici, ça c'est de l'histoire. Ça, c'est plus que de l'histoire, c'est la parole de Dieu inspirée. Et quand Jean écrit cette première lettre, j'aimerais vous dire, il y a toute une vie qui est derrière. S'il leur dit « aimez-vous les uns les autres », c'est parce que lui-même l'a vécu. C'est parce que lui-même vivait pour aimer les gens autour de lui. Et Jean va écrire, et il voit que déjà dans les églises, certains commencent à se titiller. Il y a des petites guéguerres dans l'église sur des convictions religieuses de ceci, de cela. Je ne dis pas qu'il faut négliger les doctrines fondamentales qui sont très importantes, mais il y a des chrétiens qui commencent à se picorer sur certaines choses. Qu'est-ce qu'on fait? Et Jean arrive et dit... Attendez, il faut revenir à l'essentiel. Il va parler de l'amour, de cette importance de s'aimer les uns les autres. Si vous le voulez bien, on va le prendre au chapitre 4, au verset 7. Donc, imaginez Jean très âgé, dans ce contexte, le dernier apôtre vivant. Imaginez aussi, vous êtes déjà tous dans la Bible, mais regardez-moi un instant, moi j'aime beaucoup me mettre dans le contexte. Imaginez Jean... Il a toute l'Apocalypse dans l'esprit, là. Il revient de l'île Patmos. Il a vu la fin des temps. Du Christ lui-même s'est manifesté une autre fois, lui. Il va le toucher, il va vivre, il va parler même, il va introduire cette lettre en parlant de... Il va comparer Jésus, personnifier la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans l'introduction, dans les premiers versets, il présente Jésus comme la vie éternelle personnifiée. Vous pourrez le lire. On ne va pas le lire ce soir. Et sa lettre, elle est tellement riche, mais elle garde toujours un fil conducteur. Il faut s'aimer les uns les autres. Il faut s'aimer les uns les autres. Il arrive au chapitre 4, au verset 7, il dit ceci. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Est-ce qu'on peut dire ensemble ce soir? « Aimons-nous les uns les autres. » Car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu. Hallelujah! Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Là, pourquoi? Nous, ça peut paraître simple, mais c'est complexe. Parce qu'il y a un contexte ici où il y a des gens qui sont dans l'Église, mais qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui vivent dans le péché, des gens qui font n'importe quoi de leur vie. Il y a des gens qui disent, moi, je suis chrétien, mais c'est comme ci, c'est comme ça. Et à un moment donné... Paul doit trancher les choses. Il y a même une doctrine qui commence à circuler que Jésus n'avait pas un corps d'homme, que Jésus était une sorte d'ange sur terre et qu'il n'avait pas vraiment eu un corps humain. Et il y a toutes sortes de fausses doctrines qui commencent à circuler. Et là, Jean doit quand même recadrer les choses. Il recadre, il dit non, Jésus-Christ, c'est comme ceci, c'est comme cela, voyez-vous. Mais il garde ce fil conducteur. Attention, attention, attention. Aimons-nous les uns les autres. Et j'aimerais vous montrer quelques vérités que j'ai vues dans ces textes. Premièrement, c'est une marque d'authenticité. Au chapitre 1, au verset 7, il dit ceci, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. » En d'autres mots, le signe d'authenticité du chrétien, c'est qu'il est dans la lumière, c'est qu'il aime ses frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire ceci, nos frères et sœurs, on est différent. On vient de cultures différentes. On a des personnalités différentes. Parfois, on a des avis différents. Parfois, on a des vêtements tendance mode différents. Parfois, on a des façons de prier différentes. Parfois, on a des budgets différents. Parfois, on a une marche avec Dieu qui n'est pas la même. Il y en a que ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens. Il y en a que ça fait 20 minutes qu'ils sont chrétiens. Comprenez-vous? Et tout ce beau monde, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Et l'amour, ce n'est pas toujours d'aller chez le vous et puis toucher ce qu'on n'est pas d'accord. L'amour, parfois, reste silencieux. Voyez-vous? Et il dit, l'amour, cet amour, si nous marchons dans la lumière, on va s'aimer les uns les autres. Parce que lui est lumière. Je m'explique ce soir. Il y a, si tu veux savoir une marque que Christ vraiment vit en toi, le Seigneur va toujours te travailler à te rapprocher des gens. Jamais le Seigneur travaille à nous isoler. Jamais le Seigneur travaille à isoler quelqu'un. On dit que quand le lion attrape une proie, la première chose qu'il fait, il ne la mange pas tout de suite. Il l'isole. Le diable veut t'isoler. Le diable veut parfois, à travers les blessures qu'on peut avoir vécues, la vie, tout ça, on se fait une coquille, certains se font des forteresses, et ils s'isolent. Et l'ennemi veut t'isoler pour te détruire. Le Seigneur veut te rapprocher du corps de Christ. Le Seigneur travaille toujours à nous rapprocher parce qu'il dit, « Il est lumière, nous sommes lumière. » Si, comme lui est lumière, si nous sommes aussi dans la lumière, eh bien, aimons-nous les uns les autres. Donc, une des preuves qu'on est des enfants de Dieu, une des preuves que Christ vit en toi, parce que parfois, il y a des gens, « Est-ce que vraiment Jésus vit en moi? » Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Moi, j'ai vu des gens durs, insensibles, qui avaient rempli de jugement vers les autres, et quand Jésus est venu dans leur vie, il y a comme une grâce qui vient, comme une miséricorde qui vient et un rapprochement qui se fait envers les autres. Amen. Dieu va toujours te travailler à te rapprocher, à faire grâce, à passer par-dessus des choses et même à refaire confiance petit à petit. Maintenant, je comprends qu'il faut faire attention, on ne peut pas révéler toutes nos vies, nos secrets, les choses les plus profondes qu'on a vécues comme ça envers n'importe qui qu'on ne connaît pas trop. Mais il y a quand même un rapprochement. C'est une marque d'authenticité. Le vrai chrétien, j'ai envie d'être avec l'endroit, j'ai envie de le prendre dans mes bras, tiens, tu vois. Mais t'inquiète, je ne le ferai pas. Et on peut avoir des personnalités très différentes. Léandro, c'est un latino. Et moi, je suis un anglo. Et les anglos, on est un peu plus stoïque, un peu plus parfois froid, réservé. Et les latinos, c'est amigo, hein? Mais voilà, Dieu peut prendre deux gars d'arrière-plan complètement différents et les rapprocher. Amen. Et faire qu'on s'aime. Et ça, c'est important. Deuxièmement, c'est un choix qui nous garde. C'est un choix qui nous protège. Aimer, c'est un choix. Christ vit en moi, Christ veut aimer, mais il ne le fera pas sans ma volonté aussi. Christ travaille à travers notre volonté et notre liberté de dire oui ou non. Et il y a des chrétiens, parfois, à travers les blessures, les choses qu'ils ont vécues dans leur vie, vraiment, Jésus vit en eux, mais Jésus voudrait vivre et aimer à travers eux et accepter et s'ouvrir, mais ils ont tellement vécu des choses difficiles, parfois, qu'ils restent fermés. Et le Seigneur veut désamorcer ces choses. Mais ça reste quand même aussi un choix personnel. 1 Jean 2,10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. De quoi est-ce qu'il parle? Il ne dit pas exactement de quelle occasion de chute il est question ici, mais il y a une occasion de chute que l'on peut vraiment voir ce soir, c'est les préjugés, les jugements. Je peux regarder Michel ce soir et je peux avoir des mauvaises pensées sur elle. Dire, oh, Michel, elle est orgueilleuse. Je la regarde comme ça, elle a vraiment fait. Ah, t'as vu ça sur mon écharpe et tout, là? Elle se la pète et tout. Et puis, elle vient s'asseoir au deuxième rang. Tu vois, elle veut que tout le monde la regarde. Elle veut faire la spirituelle. Il y a je sais pas, vous savez, il y a des gens qui pensent comme ça, hein? Là, tout le monde est comme. Oh, c'est vrai, hein? Aimer Michel, c'est un choix. Et la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Et il y a une traduction qui dit l'amour ne prête pas de mauvaises intentions. Moi, j'ai remarqué, 99% du temps, je me suis loupé quand j'ai prêté des mauvaises intentions à des gens. Et je m'excuse, mais même parfois, au nom du Saint-Esprit, des gens ont dit des choses vraiment charnelles. « Ah, le Saint-Esprit m'a montré que tu es comme ça. » Non, non, attention. L'amour ne soupçonne. Je ne peux pas concevoir comment le Saint-Esprit pourrait te donner une pensée qui causerait de l'amertume envers quelqu'un. Si le Saint-Esprit te montre quelque chose qui ne va pas dans la vie de ton frère, il va toujours te le montrer avec compassion, avec amour, sans jugement. Voyez-vous? Attention, il y a un serpent aussi. Hein? Et ça, c'est tellement important. Celui qui aime son frère, il n'a pas d'occasion de chute. si tu choisis, c'est un choix d'aimer. Si tu choisis d'aimer, tu protèges ton cœur de toute occasion de chute, toute occasion de préjugés, de jugement envers les gens autour de toi. Je continue. Mais ça implique un renoncement. Aussi parce que vraiment aimer, ça implique un renoncement. Voici 1 Jean 3,16. Voici comment nous avons connu l'amour de Dieu. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Aïe! Jusqu'à date, ça allait. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je donne ma vie pour mes frères et sœurs. Et voyez-vous, il y a un certain renoncement. De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. Hein? Et quand le vrai amour de Christ vit en nous, il y a un renoncement. Tu vas renoncer à quelque chose. Tu ne vas pas gérer ton temps de la même façon. Tu vas penser à quelqu'un. Vous savez, dans les transports, on est tous dans les transports presque ici. J'aime bien parfois regarder ce que les gens regardent sur leur téléphone à côté de moi dans les transports. Et parfois, je fais comme ça, je regarde. Ils sont tous en train de... La semaine dernière, je regardais, il y avait une femme. Bon, elle peut pas savoir que je parle d'elle parce qu'on sait... Voilà. Elle regardait sa copine sur Instagram qui s'était achetée je ne sais pas quoi et qui se posait avec les vêtements qu'elle s'était... Clac, 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 clac. Et tu avais l'autre qui... Puis elle lui envoyait des commentaires. Puis là, je disais, OK, ouais. Puis après, un autre, un autre, un autre. Et après, il y avait un jeune homme qui regardait des baskets. Des baskets en 3D hein, qui tournaient. Puis là, avec son doigt. Puis là, je voyais sous-entendu qu'il voulait s'acheter des baskets. Puis je me suis mis à rêver. Est-ce que ce ne serait pas beau que les enfants de Dieu, dans les transports, au lieu de regarder des baskets, si vous regardez des baskets, Dieu vous bénisse. Peut-être que vous avez besoin de baskets, il n'y a pas de problème. Mais, dans les transports, dire, « Hey, ma soeur, soeur une telle, comment va-t-elle? » Et là, tu te mets à prier pour elle dans les transports. Et là, Seigneur, il met un verset sur ton cœur. Là, au lieu de faire du copier-coller de photos, de ci, de selfies et tout machin, tu fais un copier-coller du texte dans la Bible que Dieu... Parce qu'aujourd'hui, la Bible, tu peux l'avoir sur ton téléphone. Et tu fais un copier-coller d'un verset, puis tu lui envoies. Tu dis, tu sais quoi, j'étais sur la ligne 2, je ne sais pas, puis je suis en train de prier pour toi, puis j'espère que tu vas bien, puis je vais juste envoyer ce verset. Et puis, je ne dis pas qu'il faut faire attention au verset qu'on envoie aussi. Hein. C'est repentez-vous, il faut le mettre en contexte, toi. Mais un beau verset, je pense à toi, je prie pour toi, le Seigneur t'aime. Comprenez ce que je veux dire? Mais quand... quand tu travailles, tu n'es pas dans tes temps libres. Okay? On va rendre les choses très, très pratiques. Quand tu es au boulot, tu travailles, tu dois travailler. Si tu commences à texter à tous tes frères et sœurs en Jésus-Christ, peut-être que ton patron va te faire perdre ton emploi. Tu travailles. Mais écoutez-moi bien ce soir. Dans nos temps libres, souvent c'est un réflexe. Je ne sais pas pour vous, je m'excuse, on est tous un peu charnels quand même. Souvent dans nos temps libres, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je ferais bien ceci. Je vais aller faire un peu de shopping, voyez-vous? Il n'y a rien de mal dans ces choses-là. Mais dans tes temps libres, quand ton esprit est libre, quand ton temps est libre, aimons-nous les uns les autres. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit s'aimer les uns les autres implique un renoncement à soi. Ça veut dire que peut-être que plutôt que d'aller faire une heure de shopping seul, tu vas peut-être aller boire un café avec une sœur qui ne va pas très bien. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ah, pasteur, je m'attendais à de la grande théologie ce soir. Mais ce n'est pas de la grande théologie. L'Évangile, c'est simple. Et Jean arrive dans ce contexte, justement, de grande complexité où les chrétiens, voilà, tout ce que j'expliquais tout à l'heure, il essaie de les ramener à la simplicité et leur dire, aimons-nous les uns les autres. Faisons-nous du bien. Amen. Je continue. Ça implique une générosité aussi, même matérielle. 1 Jean 3,17. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Wow! Maintenant, c'est quelque chose de très personnel, je ne vais pas rentrer dans ce sujet ce soir. Mais il y a quand même une implication personnelle à vouloir aider, à vouloir faire un geste, à ne pas, et il le dit très très bien, ne pas fermer son cœur. Quelqu'un dit amen ce soir. Il va aller plus loin, Jean, il va nous démontrer aussi que le vrai amour implique toutes sortes d'actes naturels de bonté. Avez-vous déjà vu une mère ouvrir un livre et aller chapitre par chapitre comment aimer son bébé? C'est impossible. C'est naturel. Ce qui aura un gros, gros problème, si la mère se met à lire comment faites un câlin. Prenez vos bras, mettez vos mains sous le bébé, tirez-le vers lui. Les bébés apprécient particulièrement être contre la poitrine de leur maman. OK, d'accord. Puis c'est... Non, c'est une mère. Tu ne dis pas à une mère de prendre un bébé. Non, c'est naturel. Il pleure, elle va le chercher. Elle le prend, tu vois. Et Jean dit ceci. Il parle de quelque chose qui est naturel. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue seulement, hein, mais en acte et avec vérité. Toutes sortes d'actes. Quand on aime les gens, on réfléchit à leur faire plaisir. J'ai raison. C'est pas bête, hein? Je continue. Ça implique aussi de prier pour les autres. Si quelqu'un, 1 Jean 5,16, je le coupe, hein, je veux vraiment l'essentiel. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Wow! Nous sommes sur une semaine de jeûne et prière déjà sur le campus Long. La semaine prochaine ici, il y aura des réunions à chaque soir pour prier ensemble. Et voyez-vous, la maturité en Jésus-Christ, c'est oui d'abord d'amener tous nos besoins, mais d'aller plus loin, de s'élever personnellement au-dessus de nos propres douleurs ou souffrances ou moments difficiles qu'on peut vivre dans notre vie et de dire, Seigneur, je veux te prier pour ma sœur qui est loin de Dieu. Combien d'entre nous, on a des, ne levez pas la main ce soir, mais combien d'entre nous, on a des membres de nos familles qui sont loin de Dieu? Voyez-vous? Et de juste dire, Seigneur, je vais jeûner, je vais prier, comme Justine l'a dit, selon vraiment, c'est tellement personnel le jeûne et avec sagesse, mais Seigneur, je prends un temps à part, Seigneur, je veux que tu touches ma sœur qui est loin de toi. Je veux que tu touches mon frère qui s'est éloigné de toi. Et peu importe les membres, juste déjà, si on commençait juste par nos familles, avec une expectative que Dieu réponde. Amen. Combien d'entre vous, vous seriez heureux cette année de voir un membre de votre famille qui ça fait des années qu'il est loin de Dieu revenir à Dieu? Ce serait extraordinaire. Voyez-vous? Mais à un moment donné, il a fallu que l'apôtre Jean monte à cheval et aille voir des brigands. Et alors qu'on dit qu'il avait plus de 90 ans, imaginez M. Boulagnon se mettre à courir sur la rue de la Roquette après un gangster. C'est exactement ce qui s'est passé. Il court un peu, mais tant mieux. C'est bien. Amen. Mais c'est ça l'amour. Ce que Jean a fait, et Irénée et tout ça, les pères de l'Église racontent que on passait cette histoire d'église en église, de chrétien en chrétien, de l'exemple de Jean. Comment cet homme a pu avoir une influence sur beaucoup d'églises dans sa génération, mais en même temps, se soucier d'une âme. Amen. Une âme à la fois. Et de prier pour eux. Je continue, on va terminer bientôt, je ne vais pas être très long ce soir. Aimons-nous les uns les autres. On l'a dit, ça doit être naturel, mais ça exige quand même un rappel aux enfants de Dieu. Si vous regardez bien le texte, Jean parle aux chrétiens. Même, il fait la part des choses. À un moment donné, il va dire, quand on est un vrai chrétien, on est dans la lumière. Et être dans la lumière, c'est être ainsi. Et c'est de ne plus vivre dans le péché, justifier le péché ou excuser le péché ou dire non, Dieu est cool avec ça. Non, non, on appelle les choses par leur nom. Et je veux vivre, maintenant je marche avec Dieu et j'incline mon cœur vers la sainteté. Il va parler de sainteté, il va parler de c'est quoi un vrai chrétien, voyez-vous? Et donc, on voit vraiment qu'il écrit à des chrétiens. Mais c'est à des chrétiens qui ont déjà Christ en eux qu'il leur rappelle quand même de ne pas oublier de s'aimer les uns les autres. Parce qu'il y a tellement on peut tellement vite dévier, amen, vers toutes sortes de choses autour de nous, et ça implique un rappel. Et il dit ceci, « Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu, devant lui. » N'est-ce pas extraordinaire ce qu'il dit? « Mon cœur est rassuré devant Dieu, quand je m'inquiète de mes frères et sœurs. » Paul dira même, j'ai le souci de toutes les églises. Vous dites, mais pasteur, tu as dit qu'il faut... Paul dit, ne vous inquiétez de rien, il faut vivre sans souci, sans inquiétude. Il y a des mauvais soucis et il y a des bons soucis. Les mauvais soucis, c'est de donner tous nos soucis à Dieu, puis après continuer à s'en inquiéter. Les bons soucis, c'est que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné tous mes besoins à Dieu, je me confie en Dieu pour tous mes besoins régulièrement, mais après, j'abandonne vraiment au pied de Jésus ma vie et je me soucie des gens qui m'entourent. Je m'inquiète d'eux. Et là, Jean dit vraiment ceci. Il dit que lorsque nous vivons ainsi, nous rassurerons notre cœur devant Dieu. En d'autres mots, tu as trouvé la faveur de Dieu. Et même à un moment donné, il va dire, « Ainsi, vous êtes parfait. » Et le mot en grec, c'est « complet ». N'oubliez pas que Jésus a dit que tu as accompli toute la loi. Si tu aimes Dieu et ton prochain comme toi-même, c'est extraordinaire. Et j'aimerais vous dire ceci. Si nos cœurs sont rassurés devant Dieu, d'être en paix avec Dieu, d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas merveilleux de savoir qu'en retour aussi, Dieu prendra soin de tous tes besoins? Que pendant que tu aides, Dieu t'aide. Pendant que tu te soucies, Dieu se soucie de toi. Pendant que tu donnes, tu vas recevoir. Attention, il y en a qui donnent pour recevoir. Non. On donne par amour. Mais Dieu, comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu prend soin de ses enfants en retour. Et Jean dit ici, ça rassurera notre cœur devant Dieu. Amen. Je termine, je vais inviter Pierre à s'approcher. C'est pour tous les chrétiens. Vous avez peu de temps, c'est quand même pour vous. Peut-être que tu es toi-même souffrant, mais même dans les moments difficiles, parce que Jean dira sur l'île de Patmos, quand il écrit l'Apocalypse, il dit, moi, je vous écris, moi qui est participant avec vous de la persécution. Donc, Jean aussi était persécuté. Jean aussi avait des moments difficiles dans sa vie. Mais même à travers ces moments difficiles, aimons-nous les uns les autres. Amen. Vous savez, quand j'étais jeune, moi, je ne me considère pas âgé, mais quand j'étais adolescent, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et j'ai pris une décision de quitter toutes les mauvaises fréquentations au lycée. Alors, je me suis retrouvé complètement seul. J'avais besoin d'amis. Et mon père m'a donné un conseil qui m'a resté toute ma vie. Il m'a dit, « Christian, la clé, c'est de ne pas chercher à avoir des amis, mais chercher à être un ami. » Attention, c'est fin devant Dieu, et Dieu voit les cœurs. J'avais perdu mes amis, je voulais des amis, j'étais seul, et mon père m'avait dit ceci, « Christian, la clé de la vie chrétienne, c'est de ne pas chercher à voir des amis, mais cherche à être un ami. » Et je peux vous dire, c'est la plus belle vie. Chercher à voir un ami, c'est un petit peu d'être centré sur moi. Mais trouver d'abord mon bonheur en Christ personnellement, parce qu'il débute l'épître, le premier chapitre, il dit, « Nous sommes en communion avec le Père et le Fils, et après on est en communion avec vous. » Donc, ton bonheur, tu trouves... Moi, mon bonheur, je ne peux pas le trouver en Léandro, ni dans mon épouse. Mon bonheur, il est en Christ. Et après, je ne cherche pas à voir des amis, mais à être un ami. Amen. Et peu importe votre situation ce soir, peu importe ce que vous pouvez traverser personnellement, placez-vous devant Dieu et dites à Dieu, « Seigneur, je veux être un ami pour quelqu'un. » C'est une façon différente de prier. Plutôt que de dire, « Seigneur, j'ai besoin d'amis, Seigneur, je suis seul. » Et pourquoi je dis ça ce soir? Parce que j'en parlais avec mon épouse et j'en parlais avec un pasteur la semaine dernière. Dans la dernière semaine, on a même parlé ensemble, dans la dernière semaine, c'est incroyable, les témoignages de gens, en une semaine, avec qui j'ai parlé, échangé, qui m'ont partagé vivre sur Paris, une profonde et très difficile et souffrante solitude. Et sans aller dans les détails, mais quelqu'un est venu vers moi à République dimanche et il m'a dit, « Pasteur Christian, est-ce qu'on peut prier tous ensemble? » Et puis j'ai dit oui. Et puis il m'a dit, « Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis même allé aux urgences. » Je dis, « Ça va, vous êtes malade? » Et tout, « Non, mais j'ai tellement mal à l'intérieur. » Je dis, « Mais parlez-moi, expliquez-moi. » Et au final, vous savez, c'était de la solitude. Tout simplement de la solitude. La famille a quitté la région parisienne, la famille est retournée dans son pays. Et ce jeune homme s'est retrouvé seul. Et j'aimerais te dire ceci ce soir. La grande clé pour ouvrir le cadenas de la solitude, c'est de ne pas chercher à avoir un ami, mais chercher à être un ami pour quelqu'un. Amen. Je termine avec ceci. On va prier ensemble. Jean dit, c'est exactement le contexte. Personne n'a jamais vu Dieu. Regardez ce qu'il dit après. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est vrai, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Wow! Je répète. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, qu'est-ce qu'il veut dire, Jean? C'est simple. Personne n'a jamais vu Dieu dans ce monde. Mais si nous nous aimons les uns les autres, on verra Dieu à travers toi. Franchement, ta voisine est malade, va l'aider. Fais-lui une tarte. Anything. Juste faire du bien à quelqu'un. Oh là là, pasteur, tu ne connais pas ma voisine. Hein? La tarte, je vais me la prendre. Hein? Autre chose, peu importe. Comprenez ce que je veux dire? Mais pasteur, je suis moi-même tellement en souffrance. Lui, c'est un homme qui a souffert. Vraiment. Et il dit, aimons-nous les uns les autres. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais on peut voir Dieu à travers toi. Une chrétienne, dimanche, me disait, pasteur, mon patron est venu me voir dernièrement, puis il m'a dit, parce qu'ils sont dans un groupe, ils font de l'administration, c'est un peu complexe, leur travail, elle m'expliquait. Et il m'a dit, je suis chrétienne, ils savent que je suis chrétienne. Et mon patron m'a dit, un jour, je vais percer ton mystère. Il a dit, de quoi vous parlez, patron? Il dit, toi, tu n'es pas comme nous. Parce qu'elle est chrétienne. Voyez-vous? Et il le sait qu'elle est chrétienne. Mais il lutte avec ça. Et puis même, il attrape des choses aux infos. Il vient lui balancer parfois même des insultes sur les évangéliques. Elle est persécutée. C'est pas facile pour elle, ce qu'elle me racontait. Mais il y a une chose. C'est qu'elle a un témoignage d'amour à son travail. Personne n'a jamais vu Dieu, mais son patron est en train d'un petit peu comprendre un petit peu quand même qui est Dieu à travers elle. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Le seul espoir qui est mentionné ici, c'est aimons-nous les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. N'est-ce pas extraordinaire? Hallelujah. J'aimerais vous dire ceci. Le plus cher désir de Dieu, c'est que quelque chose de naturel prenne place dans nos vies. Je bénis Dieu pour tous les programmes qu'il a à l'Église, tous les services, coups de pouce. C'est extraordinaire de voir, ils ont fait 1600 NEM pour les vendre, pour lever de l'argent, pour aider les pauvres. Tout ça, c'est merveilleux, c'est super beau. JAP, tout ce qui est fait. Parfois, l'Église doit faire des programmes et tout ça, et c'est bien, dans toutes sortes de domaines. Mais quand Christ vit en nous, c'est plus qu'un programme. C'est plus qu'un département de l'Église. C'est plus qu'un projet. Voyez-vous, on ne va pas lancer de projet à l'Église, aimons-nous les uns les autres. Ça devrait juste se faire de s'aimer les uns les autres. Amen. Naturel. On va se lever ensemble en terminant, si vous le voulez bien. Hallelujah. Hallelujah. Et avant de se laisser, vous savez ce qu'on va faire? On va s'aimer les uns les autres. Et vous dites, oh, qu'est-ce qu'il va nous demander? Vous inquiétez pas. Mais j'aimerais que vous puissiez peut-être, homme avec homme, femme avec femme, trouver quelqu'un maintenant et lui dire, j'aimerais juste, avant qu'on se sépare ce soir, j'aimerais juste prier pour toi. Juste une dernière fois, prier pour toi. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accompagne cette semaine. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, garde-nous dans la simplicité de l'Évangile. Seigneur, je t'en prie, garde-nous dans la simplicité de l'Évangile. Nous venons entendre, Seigneur, la voix de Dieu à travers l'épître de Jean, Seigneur. Tu t'es servi de ces hommes, Seigneur, qui voyait déjà l'Église un peu partir dans des mauvaises directions. Et même on dit qu'il était invité dans une Église puis dans une autre pour régler des conflits. C'est ce qu'on dit historiquement. Et Jean écrit cette épître et dit, « Mes frères, aimons-nous les uns les autres. » Seigneur, je prie, Seigneur, que nous puissions entendre la vie aussi, toute une vie qui passe, Seigneur. Garde l'Évangile, Seigneur, simple dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, ce qui va toucher Paris, ce n'est pas une grande théologie très poussée, très éloquente, Seigneur. Non, non, non. Ce qui va toucher les gens, Seigneur, c'est l'amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, toi seul, Esprit de Dieu, peux faire pénétrer cette parole en nous, Seigneur, et peut nous faire vivre cette parole, Seigneur. Hallelujah. Vous savez, je suis tellement convaincu que c'était la parole de Dieu pour ce soir. Tellement convaincu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dimanche, on a passé un bon culte, je suis rentré. Et quand tu prêches, en fait, tu as fini, puis déjà tu prends sur le prochain. J'ai dit, Seigneur, oh, je prêche mardi, Seigneur, il faut que j'ai une parole. Et je me suis réveillé la nuit. En plein milieu de la nuit, je me réveille. Et j'entends vraiment samedi, va lire 1 Jean. 1 Jean. Aimons-nous les uns les autres. Ah ouais. Je me suis rendormi là-dessus. Et lundi matin, 1 Jean. Aimons-nous les uns les autres.